Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Thierry Bolloré devrait être écarté aujourd'hui de la direction du groupe Renault. La faute à ses mauvais résultats ou à sa proximité avec Carlos Ghosn ? Nous poserons la question dans un instant. Nous irons ensuite à Bruxelles comprendre pourquoi la candidature de Sylvie Goulard a été écartée. L'ancienne ministre française ne sera pas commissaire au marché intérieur. Les eurodéputés revendiquent leur indépendance. Et puis la mission Miviludes, chargée de lutter contre les sectes, ne sera peut-être bientôt plus interministériel. Un souci d'économie, dit l'exécutif. Mais des élus et des associations militent pour la sauver, vous l'entendrez dans ce journal. Près d'un an après le début du scandale Carlos Ghosn, la direction de Renault devrait connaître du changement ce matin. Le conseil d'administration se réunit sur fond de rumeurs de limogeage de Thierry Bolloré, le numéro 2 du groupe. Un groupe qui évoque de mauvais résultats et qui veut également tourner définitivement la page Carlos Ghosn. Thierry Bolloré, lui, s'exprime ce matin dans les colonnes des Échos. Il dénonce un coup de force inquiétant à Kim Kasmi.
Thierry Bolloré paye sa proximité avec son ancien mentor, Carlos Ghosn. Ces derniers mois, ses relations avec Jean-Dominique Senard, le nouveau patron du groupe Renault-Nissan, se sont littéralement dégradées. Ce dernier lui faisant de moins en moins confiance et n'hésitant pas à garder pour lui certaines informations stratégiques. Il est également reproché à Thierry Bolloré son management parfois brutal, mais aussi la fuite de certains grands cadres, très importants. En effet, 5 d'entre eux ont rejoint cette année le concurrent PSA. Un véritable affront quand on sait que Carlos Tabarès, patron de Peugeot Citroën, est un ancien transfuge de la marque aux losanges. Il est aussi reproché à Thierry Bolloré le fait d'avoir tendu les relations avec Nissan en n'acceptant pas de tourner la page en novembre lorsque l'affaire a éclaté. Quant à l'État français qui détient 15% du capital de Renault, il se refuse pour l'instant à 2 commentaires, même si hors micro, il ne cache pas sa volonté de voir partir Thierry Bolloré. Clairement, au vu des grandes manœuvres qui ont commencé au début de la semaine, avec le limogeage d'Hiroto Sekawa, l'ancien directeur général de Nissan à l'origine des révélations du scandale Carlos Ghosn, il y a désormais la volonté, pour l'Alliance, de tourner définitivement la page. Pour autant, les crispations entre la France et le Japon ne sont pas encore réglées, car si les têtes changent, les problèmes d'équilibre subsistent encore chez Nissan, qui ne supporte pas que Renault détienne encore 43% de son capital.
Elle est évincée avant même d'avoir pris ses fonctions. Sylvie Goulard ne prendra pas les rênes du commissariat européen au marché intérieur sur décision des eurodéputés. C'est un sérieux revers pour Emmanuel Macron qui l'avait désigné. Il va devoir trouver un autre nom à proposer à la commission. Sylvie Goulard est soupçonnée d'emploi fictif, je vous le rappelle. Et donc le Parlement, en rejetant sa candidature, a voulu prouver son indépendance, Angélique Bouin.
Un Parlement qui a été profondément renouvelé en mai dernier, 60% de nouveaux élus, des profils moins technocrates, des hommes et des femmes plus attachés aux questions d'éthique et de transparence, comme l'ont clairement montré les deux auditions de Sylvie Goulard. Plus question non plus d'être une simple chambre d'enregistrement, les pressions subies pour sauver la candidate en ont agacé plus d'un. François-Xavier Bellamy, eurodéputé Les Républicains, estime même que cela a été contre-productif.
Beaucoup de parlementaires ont été l'objet de pressions fortes émanant de chefs d'État ou de chefs de gouvernement. Je crois que ça n'est pas une bonne manière de prendre au sérieux l'aspiration des citoyens en Europe à plus de démocratie et à plus de transparence. C'est aussi une manière de dire pour les années qui viendront que nous ne nous laisserons pas intimider, que nous ne nous laisserons pas impressionner, ni par les mauvais procès, ni par ces pressions politiques.
Y compris quand ces pressions émanent de leurs propres chefs de file, l'époque des consignes de vote respectées à la lettre est révolue, explique un parlementaire. Des présidents de groupes politiques qui se seraient ralliés finalement au gros de leurs troupes opposés à cette nomination sans trop d'état d'âme, certains dont le conservateur Manfred Weber n'ayant toujours pas digéré le rejet par Emmanuel Macron du système des Spitzenkandidaten. Système qui lui assurait la présidence de la Commission.
Un accord sera-t-il possible d'ici la fin du mois sur le Brexit ? Le Premier ministre irlandais estime que oui. Il l'a dit hier après avoir rencontré son homologue Boris Johnson. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est prévue, je vous le rappelle, le 31 octobre prochain. Ce matin, les deux négociateurs sur le Brexit, Michel Barnier et Stephen Barclay, vont petit déjeuner ensemble à Bruxelles pour évaluer les chances de déblocage des discussions à une semaine d'un Conseil européen crucial. Les forces turques progressent sur les territoires syriens tenus par les Kurdes. Ankara souhaite transférer sur ses terres plusieurs millions de Syriens réfugiés en Turquie. Mais les grandes puissances craignent que l'opération ne relance le conflit. Le ministre turc des Affaires étrangères précise que la Turquie n'a pas l'intention de s'enfoncer au-delà de 30 km dans le territoire syrien. Mais déjà plusieurs milliers de personnes fuient leurs habitations sur place. Ce matin, nous nous intéressons aux Kurdes syriens visés par cette offensive. C'est avec Omar Waman.
En instaurant une autonomie sur les territoires qu'ils contrôlent, les Kurdes ont été pendant longtemps les grands gagnants de la révolution de 2011. Laïcs, ils représentent près de 15% de la population syrienne. Fer de lance de la lutte contre Daesh, ils ont bâti une véritable armée, les YPG, les unités de protection du peuple, une milice au service du parti kurde syrien, proche du PKK d'obédience marxiste et considéré par la Turquie comme terroriste. C'est la colonne vertébrale des FDS, les forces démocratiques syriennes qui ont vaincu les djihadistes à Raqqa puis à Baghouz. Mais la création de cette région autonome du Rojava est à l'origine de tensions avec l'autre communauté du nord-est de la Syrie, les Arabes sunnites, hostiles aux Kurdes et accusés de complaisance à l'égard des djihadistes. Selon un rapport d'Amnesty International, ces dernières années, l'administration du Kurdistan syrien s'est rendue coupable à plusieurs reprises de déplacements forcés de la population et de destruction de villages entiers soupçonnés d'abriter des combattants du groupe État islamique.
Et j'ajoute, pour mettre fin à cette offensive, le président américain Donald Trump a évoqué hier une médiation américaine entre les Kurdes et la Turquie. La Miviludes va-t-elle disparaître le 1er janvier prochain? Il s'agit de cette mission interministérielle chargée de lutter contre les dérives sectaires. Hier, plusieurs associations et parlementaires se sont réunis à Paris pour lancer ce qu'ils appellent un acte de résistance. Ils refusent que cette mission soit rattachée au ministère de l'Intérieur exclusivement et non plus à Matignon, comme le souhaite l'exécutif. Jusque-là, cette mission avait fait ses preuves, Maïwenn Bordron.
Nicolas Jacquet a été sous l'emprise des témoins de Jéhovah. Il en est sorti il y a 15 ans et selon lui, c'est la Miviludes qui l'a sauvé.
Ce travail de synergie entre le gouvernement et les associations permet d'aider efficacement les victimes. Sans cette aide, je serais sans doute encore témoin de Jéhovah pendant quelques années et l'état dans lequel j'y étais n'aurait sans doute pas assuré ma survie.
La Miviludes pourrait fusionner avec une autre entité du ministère de l'Intérieur, le CIPDR, le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Sauf que la radicalisation est un sujet à part entière selon Georges Fenech, ancien député Les Républicains et ancien président de la Miviludes. Il dénonce aujourd'hui une faute politique du gouvernement.
Ça n'a pas de cohérence, alors que le Premier ministre avait clairement dit il y a encore 2 mois qu'il fallait conserver cette mission auprès de lui, auprès du Premier ministre, parce que l'interministérialité est absolument indispensable, ça touche à tous les domaines.
Comme lui, les associations, les victimes et certains parlementaires s'interrogent. Comment expliquer cette disparition annoncée de la Miviludes? L'argument économique est avancé. La Miviludes, c'est un budget de 500 000 euros par an. Une goutte d'eau pour le budget de l'État, selon Georges Fenech.
Il y a une autre motivation qui nous échappe. Nous pensons être sans doute la victime de réseaux d'influence occulte qui ont réussi à convaincre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelques mouvements occultes qui doivent se réjouir de ce qui arrive, mais pas les victimes précisément.
Les forces occultes des sectes à l'origine de la disparition de la Miviludes, aucune preuve quant à cette affirmation. Une chose est sûre en revanche, c'est qu'il y a aujourd'hui en France 500 000 personnes victimes d'emprises sectaires, selon les chiffres des associations.
C'était Maïwenn Bordron. Lubrizol accepte d'indemniser les agriculteurs victimes de l'incendie de son usine à Rouen il y a 2 semaines. Il s'agit dans un premier temps de 453 éleveurs présents dans 6 départements différents qui ont été touchés par l'interdiction préfectorale de produire leur lait. Lubrizol a également consenti à créer un fonds de solidarité à hauteur de 50 millions d'euros. Cela servira également à aider d'autres professionnels comme les commerçants par exemple. Le mouvement écologiste Extinction Rébellion poursuit ses blocages, dans Paris notamment. Après la place du Châtelet et le pont du Change, ils occupent depuis hier la rue de Rivoli, là aussi en plein centre de la capitale. Ces blocages durent depuis 5 jours au total et personne au sommet de l'État français ne réagit pour le moment. Aucun mot, aucun message de la part des pouvoirs publics. Cette indifférence agace et sidère même 2 militantes rencontrées par Véronique Rebérotte, Léa et Clarisse.
Il n'y a eu aucune réaction, il n'y a eu aucun engagement, il n'y a aucune promesse de mesure, absolument rien. Alors qu'il se passe ce qui se passe à Paris, mais là cette semaine il se passe quand même des actions comme ça partout dans le monde. Et voilà, on est assez frustrés et choqués qu'il n'y ait eu aucune réaction de leur part. Et en fait c'est même pas envers nous, c'est envers ces revendications-là. On ne le prend pas personnellement, c'est pas une non-réaction d'un mouvement particulier, c'est une ignorance de revendications qui sont communes à tout le monde et qui concernent absolument la planète, quoi, la Terre entière.
C'est un peu désespérant dans le sens où ça veut dire que le sujet est complètement ignoré en fait. On en est là. On parle de la 6e extinction de masse, on parle d'une probabilité forte d'effondrement aussi de toute notre société thermo-industrielle.
C'est pas rien en fait. Et le sujet est complètement ignoré. Et dans les revendications d'Extinction Rébellion, dire la vérité, on attend aussi qu'elle vienne des politiques. Et elle vient pas. Et dire la vérité, c'est aussi être honnête sur la situation et sur ce qui arrive dans les prochaines décennies. On nous laisse là, quoi.
C'était deux militantes rencontrées par Véronique Rebérotte, place du Châtelet à Paris. Le ciel sera gris ce vendredi sur le nord de la France métropolitaine, ensoleillé au sud de la Loire. Comptez ce matin 14 degrés à Lille et Paris, 15 à Rennes et Strasbourg, 17 à Bordeaux, 21 à Marseille.